Bonjour et bienvenue sur RLM. Je reçois Mireille Ranise. Elle est autrice de plusieurs romans sur l'histoire des femmes.
Bonjour.
Bonjour, Roger.
Alors, nous allons aborder avec vous l'histoire des femmes à travers vos romans et votre activité de romancière. Alors, ma première question, quels sont les auteurs et les livres qui ont marqué votre adolescence?
Alors, j'ai beaucoup lu Barjavel. Qui est un auteur, je ne sais plus s'il est tellement connu maintenant par les jeunes générations, mais c'est un auteur qui mêlait fiction et roman, et fiction au niveau, au sens de science-fiction d'ailleurs. Donc j'ai bien aimé Barjavel parce que c'était des histoires toujours un peu qui sortaient, qui vraiment me faisaient m'évader de mon quotidien. Et finalement, je pense que la lecture sert à ça. Ensuite, Jeannine Bourin, parce que c'était des romans historiques et que j'avais cette passion pour l'histoire. Qui d'autre? Guy Descartes aussi, que j'ai beaucoup lu et apprécié. Et puis, tous les romans classiques, je dirais, de Pagnol, des personnes comme ça.
D'accord. Ont-ils eu une influence, tous ces excellents auteurs, sur votre manière d'écrire?
Je pense pas, parce qu'à l'époque, j'imaginais pas du tout un jour de prendre le clavier, on va dire. Et donc, je crois pas que ça m'ait influencé, parce que quand je me suis mise à écrire, je les avais pratiquement oubliés.
Alors, revenons à votre scolarité, si vous permettez. Quelles étaient vos matières préférées?
Alors, évidemment, le français. Et puis, le français. Et le français.
D'accord. Et les autres,
la philo, j'ai beaucoup aimé la philo aussi. J'ai vraiment apprécié cette matière et je regrette énormément que ça ne soit qu'en toute fin de parcours.
En terminale.
Parce que je pense que ça mériterait de développer davantage l'esprit des jeunes, par exemple à partir de la seconde.
Il était question justement à un moment donné,
ça a été abandonné, c'est tout à fait dommage. Donc philo, d'ailleurs j'ai fait un bac littéraire, philo, français, les langues aussi, les langues j'ai beaucoup aimé. Alors on peut dire ce que j'aimais pas trop, c'était maths, physique, chimie, voilà. Sinon l'histoire aussi, mais moins à l'époque scolaire que maintenant.
Quelles études justement avez-vous faites?
Alors j'ai fait un bac littéraire et puis ensuite je suis rentrée dans le système professionnel parce que j'avais besoin de travailler. Et donc la suite de mon parcours, je ne l'ai pas fait en formation initiale mais en formation continue. Et donc j'ai passé un BTS alors que je travaillais. Ensuite, lorsque la boîte dans laquelle j'étais employée, qui était une société d'informatique, a déposé le bilan, j'ai dû me reconvertir. Et là, je suis retournée sur les bancs de la faculté pour passer un master 1, un master 2, passer le concours de l'éducation nationale et devenir enseignante au lycée de Jocante de Casabianca à Bastia.
D'accord.
J'ai fait une carrière d'une quinzaine d'années.
Pas mal.
C'est pas mal.
Allez, Ben.
Pardon. Je voudrais juste dire, puisque c'est destiné à des jeunes filles, que c'est un parcours qui me paraît porteur d'espoir. Parce que ça ne veut pas dire que si on arrête les études après le bac, ça ne veut pas dire que c'est terminé. Maintenant, avec la formation tout au long de sa vie, on peut faire des choses et aller au-delà de ce qu'on pouvait avoir envie quand on avait 18 ou 19 ans.
Effectivement, oui. Bonne précision. Alors maintenant, on va s'intéresser à votre parcours d'écriture, si vous voulez bien. Connaissez-vous déjà la fin du livre lorsque vous commencez à écrire?
Alors là, sur les grandes lignes, c'est possible. Mais après, je dois dire que les personnages m'emportent. C'est-à-dire que, bon, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais les personnages... deviennent presque autonomes, je dirais. Et malgré moi, ils me poussent à développer leur histoire. Enfin, malgré moi, c'est quand même moi qui décide. Mais quelque part, ils me poussent eux-mêmes à développer leur histoire parce que je me dis, tiens, mon Dieu, celle-ci, elle mériterait qu'on s'attarde davantage sur son sur ses actes, son destin. Celle-ci, elle pourrait influencer différemment l'histoire. Alors effectivement, la fin, je la connais, on peut dire que je la connais, mais je ne sais pas réellement mais où ça va m'entraîner. La fin peut changer.
Tout au long du,
oui.
du livre pour...
Oui, par exemple, j'ai un exemple en tête sur le livre qui s'appelle « La Villa des Tulipiers ». J'avais pas envisagé de fin en réalité. Je me suis laissée emporter par l'écriture. Par contre, dans le dernier roman, là, « Si je t'aime, prends garde à toi », étant donné qu'il est basé sur des faits réels, je savais la fin, comment ça allait se passer.
D'accord. Alors, tous les auteurs ont un moment préféré pour écrire. Quel est le vôtre? Certains écrivent la nuit, d'autres le matin.
Non, moi j'écris l'après-midi. Je consacre le matin à mes tâches ménagères, je dirais. Et puis, justement, parce que c'est pas mon travail, c'est pas un métier, donc j'écris lorsque j'ai le temps. Je préfère écrire l'après-midi, en début d'après-midi d'ailleurs. Et puis, voilà, sinon, de toute manière, c'est pas juste la période d'écriture. Mmh. En fait, le livre, il est là tout le temps. Dans n'importe quelle activité, derrière ce que je fais, que je repasse ou que je fasse la cuisine comme ça, il y a l'histoire du livre dont j'écris finalement dans ma tête tout le temps.
D'accord. Et l'inspiration, ça vous vient...
Naturellement.
Naturellement, d'accord.
C'est une grande chance d'ailleurs. D'ailleurs, là, en ce moment, je n'écris rien parce que justement, je n'ai pas de. J'ai rien qui m'inspire. Donc, je laisse venir.
D'accord. Alors, comment vous viennent vos idées?
Alors, justement, alors, le premier roman, c'est Eugénie, c'était. C'est maintenant une saga familiale, Mémoire de femme. Mais le premier roman, ça, c'est venu de mes conversations avec ma grand-mère. Lorsque j'étais adolescente, je passais beaucoup de temps avec elle. Parce que c'est vrai qu'avant, les anciens, on les gardait à la maison. Et donc, je passais beaucoup de temps avec elle. On écoutait la musique qu'elle écoutait quand elle était jeune. Reda Kerr, enfin des chanteurs comme ça. Elle me racontait sa vie et c'était, elle était née en 1895 et donc elle a connu la première guerre et elle était veuve de guerre, etc. Et je me suis dit, quand je l'écoutais, plus tard même, je me suis dit, c'est vrai que la guerre, les soldats, on en a beaucoup parlé, les tranchées, les poilus, tout ça, mais les gens qui n'étaient pas au front, les anonymes qui ont fait tenir le pays quand même, on en a peu parlé. Donc je me suis dit à l'époque, un jour je témoignerai de ça, et je l'ai fait. Donc j'ai fait ce premier roman qui s'appelle Eugénie, et à la fin, lorsque j'ai eu terminé, je me suis dit, quand même ces femmes qui se sont battues, qui ont cherché à s'émanciper malgré le contexte qui était le leur, un contexte très patriarcal, il faut le dire, hein, c'est quand même formidable ce qu'elles ont fait. Et je me suis dit, ce qui serait bien, c'est que j'aille jusqu'à ma période, jusqu'à mon époque, pour montrer cette évolution, justement. Et comme ça, on arrive à 5 tomes d'une saga. Et ça, je n'y étais pas du tout préparée.
D'accord.
Ça, c'est venu comme ça. Et pour répondre à votre question sur l'inspiration, donc là, c'est mes conversations avec ma grand-mère. Et les autres romans, alors c'est La Villa des Tulipiers, c'est une villa à Marseille qui est une belle villa du XVIIIe siècle, et qui m'a tapé dans l'œil. Et je me suis dit, ma foi, j'aimerais bien raconter l'histoire des gens qui ont pu vivre à cette époque. Donc là, j'ai fait ce livre. Et le dernier, Si je t'aime, prends garde à toi, c'est un article qui est passé sur un petit magazine qui racontait un article sur les bandits d'honneur, en fait, et qui racontait l'histoire de cette femme. Alors, il y avait une quinzaine de lignes, et ça m'a interpellée, et j'ai dit, ouf, j'ai envie de raconter cette histoire. Et voilà. Voilà comment vient l'inspiration.
D'accord. Alors, maintenant, nous allons passer à vos livres.
Hmm? Alors. Ah ben là, j'ai presque tout dit.
Pourquoi avez-vous choisi justement d'écrire sur les femmes?
Eh bien, je crois que ça vient effectivement de ma grand-mère, hein, de ma maman aussi, que j'ai vu travailler, qui divorçait, mes parents sont divorcés, et j'ai vu ma maman nous élever, supporter énormément de choses dans sa vie maritale, et puis ensuite. se travailler, son métier, etc. Et je pense que tout ça, ça vient des femmes que j'ai eues autour de moi, et puis moi-même en tant que femme, et puis ce que j'observe autour de moi, toute cette émancipation, je dirais, ce mouvement de libération de la parole, tout ça, ça m'a donné envie d'écrire sur les femmes. Alors, voilà.
D'accord. Quel public visez-vous à travers vos romans ?
Alors, je ne vise pas de public en particulier. La saga familiale a trouvé un public de personnes plutôt de ma génération et même la génération antérieure, parce que effectivement, alors c'est très très émouvant parce que quand je suis en dédicace, des personnes reviennent me voir parce qu'elles ont acheté le premier, puis elles reviennent pour acheter les autres, et elles me disent j'ai compris beaucoup de silence de ma grand-mère, parce que c'est la période de la guerre, et ça m'a réconcilié un peu avec mon adolescence, avec ma grand-mère qui ne disait pas beaucoup. Il faut pas oublier que ce sont des personnes de ma génération, donc leur grand-mère était aussi âgée que la mienne. Maintenant, les grand-mères, moi je suis grand-mère maintenant, je pense que c'est tout à fait différent. Et donc c'est cette génération-là qui a trouvé, enfin, la saga a trouvé ce public-là. Et puis j'ai quand même aussi de jeunes filles et des jeunes femmes qui sont très intéressées de connaître le parcours antérieur de le combat des femmes pour en arriver jusqu'à nous. Voilà. Donc quelquefois j'entends dire que les jeunes n'aiment pas lire. Je m'insurge contre cette idée fausse.
Alors nous avons justement une jeune fille dans les studios qui a préparé ses questions, faut le signaler.
Je la félicite.
Et qui est en SSP, c'est-à-dire en aide au service à la personne, au lycée Fred Cameron à Bastia. Alors, as-tu des questions sur le sujet dont on vient de parler?
Bah justement, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous pensez que vos livres ils peuvent aider des femmes de mon âge, des jeunes femmes, à justement avancer, comprendre et se battre un petit peu plus pour tout ce qu'il y a maintenant?
Alors, oui, je pense que ça peut aider les jeunes femmes déjà à se réconcilier avec les générations antérieures, avec leur mère et leur grand-mère, avec leur tante, avec leur sœur, en tout cas avec leurs aînés. Et puis, ça peut les aider aussi dans le sens où ça leur montre que ben, tout n'est pas arrivé tranquillement, qu'il a fallu quand même certaines luttes pour arriver à disposer librement de notre corps, à faire partie un peu des responsables, d'avoir des postes à responsabilité, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et donc je pense qu'en ce sens-là, ça peut effectivement aider les jeunes femmes à comprendre d'où on est parti, où on en est, et que le combat doit continuer. Et surtout de les aider, peut-être dans l'éducation aussi de leurs filles et de leurs fils, pour leur dire que tout n'est pas acquis et qu'il faut continuer, que le garçon doit respecter les femmes et que les filles doivent être à la hauteur de ce qu'on attend d'elles et montrer qu'elles existent et qu'elles sont capables de faire des choses importantes.
D'accord.
Tu as d'autres questions? Bon, tu interviens quand tu veux.
Oui.
Alors, on va évoquer vos projets maintenant. Est-ce que vous en avez? Chaque autrice a des projets.
Alors,
de romans.
J'ai un projet qui est abouti pratiquement puisqu'il est sous presse. Je suis originaire du Sud-Ouest, peut-être que vous l'avez entendu en mon accent. Et
oui, c'est vrai.
C'est une histoire de trois générations de viticulteurs, mais c'est en un seul roman, c'est pas une saga encore. Trois générations de viticulteurs, de vignerons qui produisent du sauterne. Et donc ça se passe dans le Sud-Ouest, sur un domaine qui s'appelle Regard de Venir. Et voilà, ça c'est mon projet.
Justement, tiens, en parlant des noms, parce que est-ce que c'est des noms qui existent ou des fois vous inventez des noms fictifs?
Alors pour les domaines, pour les maisons, ce sont des noms qui existent. Par exemple, Regard de Venir, c'est le nom d'un mas. Enfin, j'ai habité en Provence et des balades en bicyclette. Il y a une masque qui s'appelle Regarde venir, et je dis, ma foi, ce nom, c'est joli, c'est formidable. Et je le garde dans un coin de ma tête, et je le remets dans un livre. Par contre, pour les noms des personnes, alors là, c'est beaucoup plus compliqué parce que. Alors, je fais des recherches sur les prénoms de l'époque, puisque ce sont principalement des romans historiques, donc je ne peux pas appeler quelqu'un Priscilla. Et donc, je fais d'abord cette recherche, je choisis des noms qui me plaisent. Et pour les noms de famille, c'est plus compliqué parce que je fais une recherche pour voir si la personne n'existe pas réellement.
D'accord.
J'ai le souvenir d'un personnage qui est maire d'une commune. Et j'ai dû chercher pendant un moment, changer le nom, le prénom, la combinaison, parce que chaque fois, je trouvais quelqu'un qui s'appelait réellement comme ça. Et c'est pas mon but, parce que je pourrais avoir des plaintes,
ou des,
voilà, des, exactement, hein, des réclamations, ou comment, je veux pas surtout m'exposer à ça.
C'est normal. Alors, on va se retrouver dans quelques minutes, juste après une petite pause musicale, justement.
Très bien, merci.
À tout de suite.
À tout de suite.
Vu tout l'argent du monde, gardez-le pour vous, et vous pourrez dire aux plus belles blondes qu'elles ne se pendront plus à mon cou. Moi je ne veux qu'elle encore et toujours. Je n'ai besoin de rien, non rien d'autre que son amour. De toutes ces princesses qui règne la nuit peuvent garder leur corps et leur richesse. Elles ne font plus partie de ma vie. Moi je ne veux qu'elles encore et toujours. Je n'ai besoin de rien, non rien d'autre que son âme.
Dire aux plus belles blondes qu'elles ne se pendront plus à mon cou. Moi, je ne veux qu'elle. Simplement. Elle.
Merci de nous rejoindre sur l'antenne d'RLM. Nous sommes toujours avec Mireille Ranise et nous reprenons notre discussion. Alors, comment vous est venu le choix du titre ? C'est important.
Alors, le choix du titre, c'est vraiment très très difficile parce que ça doit être un titre accrocheur qui dit un peu de ce que va être le roman sans tout dire. Il ne faut pas que ce soit trop... Je ne sais pas, enfin, c'est vraiment difficile. Donc, sur la saga, comme c'était des histoires de femmes, ben, j'ai choisi des prénoms. Et des prénoms que j'aimais. Alors, on a Eugénie, Léontine, j'adore le prénom de Léontine. C'est un vieux prénom et je le trouve très musical. Ensuite, la Villa des Tulipiers. Alors là, j'ai galéré un peu parce que je voulais... Je vous ai dit tout à l'heure que ce qui m'avait inspiré ce roman, c'était une villa, une maison que j'avais... dont j'étais tombée sous le charme à Marseille et qui s'appelle toujours La Villa Magalone. Donc je voulais appeler le livre La Villa Magalone. Mais je me suis demandé si j'avais le droit. Je me suis dit que pour cela, il fallait que je demande au maire de Marseille. Alors avant que je puisse avoir un rendez-vous avec le maire pour lui demander. Donc j'ai changé, j'ai mis La Villa des Tulipiers. Alors après, j'ai beaucoup changé La Villa aux Tulipiers, des Tulipiers. Je cherche la musicalité aussi. Ensuite, Si je t'aime, prends garde à toi. Alors ça, c'était presque une évidence, parce qu'à cause de l'histoire que je ne vous dévoilerai pas. Voilà. Et le dernier, celui dont je vous parlais, là, le projet dont je vous parlais, s'appelle Avant l'orage, parce qu'il se passe juste avant la Seconde Guerre mondiale.
D'accord.
Et que beaucoup d'actions du livre se déroulent, enfin des actions importantes, des scènes importantes se déroulent avant un orage. Mais il y a surtout avant l'orage, le gros orage de la Seconde Guerre mondiale qu'on voit arriver avec le fascisme qui monte en Allemagne.
D'accord. Alors, ma prochaine question est très intéressante, d'ailleurs. Comme toutes les autres, je voudrais souligner aussi que les questions ont été préparées par les secondes ASSP. Donc, bravo à elle.
Oui,
vraiment.
Félicitations. Oui.
Félicitations. Alors, est-ce que tous vos personnages principaux sont des femmes ?
Pas spécialement. Alors, il y a beaucoup de femmes, effectivement. Mais il y a... justement, dans Avant l'orage, il y a beaucoup d'hommes. Même dans la saga, de toute façon, il ne faut pas opposer les hommes aux femmes. C'est... chercher la femme, mais chercher l'homme aussi. C'est vrai qu'il y a... Non, la réponse est non. Il n'y a pas que des femmes dans mes personnages principaux. Et d'ailleurs, dans le dernier, c'est trois hommes.
D'accord. Est-ce un roman en plusieurs tomes ou plusieurs romans indépendants ?
Alors, il y a les deux. Le premier ouvrage que j'ai fait s'appelle Mémoire de femme. C'est une saga en cinq volumes parce que chaque volume retrace une génération, le destin de la fille de l'héroïne précédente sur une génération de 20 ans. Donc, chaque volume raconte l'évolution de la France, aussi de la société française sur 20 ans. Et donc, comme c'est sur un siècle, de 1910 à 2010, on a cinq volumes. Voilà. Sinon, tous les autres, ce sont des romans indépendants. Mais même sur la saga, ils sont quand même indépendants, parce que comme au départ, je ne voulais en faire qu'un, enfin, dans mon idée, j'en faisais qu'un, il a un début, une fin. Et chacun a un début, une fin. Donc, on n'est pas frustré si on s'arrête au milieu de la série, ou si on peut même commencer par la période qui nous intéresse le plus, on n'a pas besoin d'avoir lu les précédents.
D'accord.
Chaque personnage a un destin qui lui est propre.
Alors là, on va s'attacher maintenant au cinéma. Souvent, ça a une petite liaison avec la littérature parce qu'il y a beaucoup de films qui sont adaptés, de livres, pardon, qui sont adaptés en film. Justement, tiens, est-ce que vous avez songé à réaliser un film à partir de vos romans ?
Alors, j'adorerais que mes romans soient adaptés à la télévision ou même au cinéma, pourquoi pas, soyons fous. Mais pour l'instant, je n'ai été contactée par personne et moi-même, je ne sais pas à qui m'adresser pour proposer cette adaptation.
D'accord. Mais vous aimeriez...
Ah, si ça arrivait, ça serait vraiment une consécration pour moi.
D'accord. L'appel est lancé.
Voilà, exactement.
Est-ce qu'il vous arrive d'être en proie au doute et à l'angoisse de la page blanche comme beaucoup d'écrivains?
Alors, non, pas la page blanche. Parce que si j'écris, c'est que je sais ce que j'ai envie d'écrire, c'est que j'ai l'inspiration. Je ne cherche pas... C'est pour ça que je vous disais, en ce moment, je n'écris pas parce que je n'ai pas d'inspiration. Donc, je ne cherche même pas à meubler une page blanche. Mais parfois, comme je vous disais tout à l'heure, mes personnages prennent un peu d'autonomie. Et donc, lorsque je ne sais pas comment une situation va évoluer, là, oui, je préfère laisser poser le truc et j'écris une nouvelle pour garder la gymnastique d'écriture. Donc, j'écris la nouvelle et puis après, je peux me replonger dans le roman. D'ailleurs, j'ai fait un recueil de nouvelles après. Donc, ça arrive quand même pas mal souvent.
Et malheureusement.
Mais c'est pas l'angoisse de la page blanche. On peut pas appeler ça comme ça.
D'accord. Oui,
c'est dans le sens où vous vous prenez pas la tête.
C'est donc
plus,
voilà.
Si ça arrive, ça arrive. Et puis.
Si j'ai rien à écrire, j'écris pas. C'est pas la peine. Mais voilà.
D'accord. Utilisez-vous des archives historiques, tiens, pour la préparation de vos romans?
Alors ça, effectivement, c'est très important, parce que comme ce sont des romans historiques, il faut que je les documente un maximum, parce que moi, je veux être très proche de la réalité. On a de la chance, enfin, j'ai la chance d'être à l'époque d'Internet, et on a, effectivement, on trouve énormément d'archives historiques. C'est-à-dire que quand je dis, par exemple, qu'il neigeait ce jour-là, il a réellement neigé. On a les archives météorologiques sur un siècle. On a aussi toutes les archives de tous les journaux télévisés. Lorsqu'il y a eu, par exemple, dans le tome 4 de Mémoire de femme, il y a un accident d'avion. C'est un accident qui s'est réellement déroulé. J'ai visionné plusieurs journaux télévisés qui relataient, qui montraient les images et qui relataient le reportage. Et tout ça, c'est effectivement une grosse recherche. Après, lorsque ce sont des recherches beaucoup plus historiques, je dirais, je suis abonnée à des sites spécialisés, comme Hérodote, Storia Mundi, World Encyclopédie, enfin beaucoup de sites d'histoire. Et puis je fais des recherches au musée de Marseille, au musée d'histoire naturelle, voilà, à Bastia aussi. C'est très important. D'ailleurs, je dis toujours qu'il y a trois phases dans l'écriture. Il y a la phase en amont, c'est-à-dire de la préparation, parce que souvent on me dit « Ouh, mais tu vas vite pour faire un roman », puisque c'est vrai que j'ai commencé en 2021, qu'il y en a déjà 9. Donc, je dis, c'est pas la période d'écriture qui est importante, c'est en amont toute la période de préparation, de documentation et tout ça. Ensuite, il y a la période d'écriture, là je dirais que c'est réellement le plus simple finalement. Et ensuite, il y a la période de communication avec les lecteurs, et ça c'est vraiment aussi une période de plaisir, parce que on rencontre les gens, on discute avec eux, ils sont vraiment très réceptifs à ce que j'écris et à me livrer des anecdotes eux-mêmes, comme s'ils avaient dans leur tête l'idée que je pourrais en faire une histoire. C'est quelque chose qui me plaît énormément.
Justement, tiens, j'ai une petite question qui, moi, m'intéresse, justement. Combien de temps vous prenez pour faire les archives, pour écrire?
Alors là,
livre en général,
ça, c'est...
J'ai toujours été admiré par ça, en fait.
Il y a quand même une bonne période, je dirais, d'un bon trimestre. Et même après, ça continue. Pendant l'écriture, ça continue. Comment ils vivaient à cette époque, quel était l'ameublement, est-ce que l'eau était courante. Parce qu'à chaque, finalement, à chaque phrase, on se pose une question. Attends, je vais dire ça, mais est-ce que seulement ils avaient de l'eau? par exemple, hein, évidemment. Mais donc, on est obligé, même pendant la période d'écriture, d'aller vérifier certains points. Mais la période réellement, il faut compter bien 2 ou 3 mois avant de poser le cadre de la documentation, hein, de l'information. Alors, je visite donc les sites. Je vais chercher dans mes archives personnelles et puis je me fais une sorte d'exposé, on dirait, hein, exposé scolaire. C'est vrai que j'ai une manière très scolaire d'aborder les choses, hein, de toute façon. Et donc je me fais cet exposé et après je sais dans quel cadre vont évoluer mes personnages, etc. Voilà.
D'accord. Merci. Ça m'intéresse de tout temps. De savoir ça, parce que c'est vrai qu'au niveau littérature, on a toujours tendance à se demander et à se poser certaines questions. Et
oui, parce que peut-être que les gens peuvent s'imaginer qu'on a la science infuse, or c'est pas du tout le cas, et donc il faut faire énormément de recherches.
D'accord, merci.
Regardez un auteur comme Pierre Lemaître, par exemple, son dernier roman se passe à Saïgon, il n'y a jamais mis les pieds, je suppose qu'il a fait un travail de recherche énorme. Donc,
On n'a rien sans rien.
Non, effectivement. Moi-même, j'ai le roman, là, le deuxième tome de la saga, et il y a une partie qui se passe à Chicago. Je n'y ai jamais mis les pieds, mais je le décris comme si on y était, quoi. C'est des recherches. Alors, toute la documentation est une source de...
De
renseignements, d'informations.
D'accord. Comme quoi, il faut toujours travailler toute votre vie. Alors, où est-ce que vous situez la frontière entre la fiction et la réalité, pardon?
Alors, c'est une question très intéressante, notamment alors, sur le dernier livre, « Si je t'aime, prends garde à toi », cette histoire est basée sur des faits réels. Donc, là, il faut quand même... C'est la différence, pour répondre à votre question, c'est la différence entre raconter une histoire comme une conversation et puis la faire lire. Oralement, ben, je pourrais vous dire, c'est l'histoire d'une fille qui a été séduite par un homme et qui est abandonnée. Voilà, ça tient à 3 phrases. Pour le roman, il faut le romancer. Voilà. Donc, il y a de la fiction qui intervient. Donc la limite entre le récit et la fiction, c'est un peu, vous savez, dans l'enseignement, il y a la pédagogie, il y a le savoir brut. Eh bien, il faut transformer ce savoir brut pour pouvoir le transmettre. C'est la pédagogie qui permet ça. Et dans la littérature, c'est pareil. Il y a l'histoire vraie, et puis il y a la façon de le transmettre en le romançant un peu pour que l'histoire soit intéressante, ou en tout cas attachante. Donc je dirais que cette limite, elle est là. Elle est dans la transmission de l'histoire réelle pour la faire exister.
D'accord. Et ma dernière question... Écrivez-vous en musique?
Ah, pas du tout. Non, je serais incapable de me concentrer si j'avais de la musique. Je repasse mon linge en musique, je cuisine en musique, mais je n'écris pas du tout en musique.
D'accord.
Merci. Je voudrais vraiment souligner la qualité des questions et le travail qu'a fait Mademoiselle Lemaître sur ce projet, parce qu'elle est venue à ma rencontre lors d'une séance de dédicace. Elle m'a exposé son travail et elle m'a invité à participer à cet événement aujourd'hui. Et je trouvais ça très intéressant et je la félicite pour son travail et la façon dont elle l'a apporté.
C'est très gentil.
J'ai une question qui me vient. Est-ce que vous avez des séances de dédicace prochainement qui sont prévues pour 2026?
Alors effectivement, j'ai des séances de dédicace que je ferai en 2026. Là, je pars sur le continent, je vais en faire quelques-unes. Et lorsque je reviens au mois de mai, je vais aller à Ajaccio, le 22, je crois. Et puis après, je vais refaire ma tournée à la librairie Le George Sand à Togg, hein. Chez Papy également. Je n'ai pas les dates encore. Hein. Et puis à Furiani, là où nous sommes rencontrés. Je n'ai pas encore les dates, mais on peut les trouver facilement sur mon site internet.
D'accord.
Parce que chaque fois, je les mets. Dès qu'elles sont arrêtées, je les mets. Et ensuite, j'aime bien poursuivre la relation. Je vous disais que la troisième période de l'écriture, c'est la rencontre avec les lecteurs. Et donc, j'aime bien poursuivre cette relation avec une lettre d'information mensuelle. J'envoie une fiche personnage avec des anecdotes sur l'époque, voilà, des choses comme ça, pour pouvoir garder le contact. Et sur cette lettre, lorsque j'ai les dates qui sont arrêtées, je les inscris pour que les gens puissent venir me rencontrer.
D'accord. Et sur le continent, vous allez avoir des séances dédicaces?
Oui, je vais en avoir à Marseille, là, le 22 décembre. Mmh. Après, je vais aller aux Angles, à côté d'Avignon. Je vais aussi aller dans le sud-ouest, bien sûr, parce que...
Oui, c'est votre voilà. Région.
Et puis, je crois que du côté de Toulouse aussi, j'ai quelque chose.
D'accord. Ben, je vous remercie
c'est
beaucoup
moi.
D'avoir répondu à nos questions.
C'est moi.
Et je vous souhaite de passer une excellente journée.
Merci.
Merci à vous. Et je vous souhaite aussi de passer une excellente journée. Merci de m'avoir écouté. Merci à Zoé. Et bravo encore.
Oui, bravo. Je lui souhaite bonne réussite.
Et merci. À bientôt.
À
au revoir.
À bientôt. Au revoir.